Bienvenue à tous sur France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Antoine Marette, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Nicole Belloubet confirme l'option du rapatriement des djihadistes français détenus par les Kurdes syriens. La ministre de la Justice explique faire le choix du contrôle.
Dans votre journal également, Carlos Ghosn qui s'exprime dans la presse française. L'ancien PDG de Renault, qui est toujours incarcéré au nord de Tokyo, clame son innocence dans Les Échos. Il dénonce une trahison et un complot.
À Bruxelles, le procès de Mehdi Nebbouch se poursuit. Pour la première fois depuis le début de ce procès, l'accusé s'est exprimé longuement, il affirme qu'il n'est pas le tueur du musée.
L'invité du journal de midi 30 sera Lauriane Rossi, députée LREM. Nous évoquerons avec elle notamment la proposition de loi anti-casseurs qui prévoit des interdictions administratives de manifester.
Midi 55, seconde partie de la Grande Table avec vous Olivia.
Et oui, je reviendrai en compagnie de l'anthropologue Philippe Descola. Il est l'un des invités d'honneur de la Nuit des Idées qui s'ouvrira ce soir. Il est l'auteur de Par-delà nature et culture. On lui demandera donc comment il se positionne face au thème de cette quatrième édition, face au présent. Quels sont les enjeux qui n'attendent plus? On verra tout cela avec Philippe Descola à partir de midi 55.
À tout à l'heure. C'est donc bien l'option du rapatriement qui a été décidée pour les djihadistes français détenus par les Kurdes syriens. Nicole Belloubet l'a confirmé ce matin chez nos confrères de RTL. La ministre de la Justice explique faire le choix du contrôle et donc du rapatriement des djihadistes français. Elle ajoute que parmi les 150 ressortissants français retenus au nord-est de la Syrie par l'Alliance arabo-kurde, les trois quarts sont des enfants de moins de 7 ans. Bonjour Frédéric Seyss.
Bonjour.
Le changement de doctrine du gouvernement est donc confirmé. Paris va privilégier le retour en France de ces djihadistes. Du pain béni pour l'extrême droite.
Qui, en ce début de campagne pour les européennes, s'est évidemment saisi du sujet, à l'image de Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement National.
Eh bien oui, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui se posent des questions
oui.
et chez qui ça crée une inquiétude. Enfin pardon, mais M. Castaner, il est quand même ministre de l'Intérieur, il est en charge de la sécurité des Français, il n'est pas en charge, si vous voulez, du bien-être de ces gens à l'étranger.
Jordan Bardella, chez nos confrères de BFM TV, le parti Les Républicains a aussi fait valoir son refus de tout rapatriement. Les deux partis profitent du flou, ou plutôt de l'indécision du gouvernement à 7h. Ce matin, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a tenté de redonner un peu de nuance à ce débat jusqu'ici assez simpliste, notamment en déconstruisant l'image de 130 ou 150 hommes djihadistes qui reviendraient sur le territoire national. Premièrement, on ne connaît pas encore le nombre précis de ces Français détenus par les Kurdes, indique Nicole Belloubet. Et en second lieu, selon la ministre, il s'agit en majorité de mineurs.
Oui, il y a principalement des enfants mineurs. D'accord. Parce que, encore une fois, ces enfants soit sont nés là-bas, soit sont partis tout petits de France avec leurs parents. Donc ce sont des enfants mineurs. Par rapport à ce que nous savons statistiquement au regard des enfants qui sont rentrés en France, ce sont surtout des enfants de moins de 7 ans. Nous pensons qu'il y a à peu près 75%, ce seraient des enfants de moins de 7 ans.
Nicole Belloubet, ce matin, sur RTL. Alors que faire? Le gouvernement a une certitude, il ne peut plus appliquer la doctrine adoptée jusqu'ici, c'est-à-dire laisser juger ces Français sur place, car le retrait des troupes américaines de Syrie fait craindre des évasions massives de ces prisonniers retenus par les forces kurdes. Nicole Belloubet affirme sa préférence effectivement pour le contrôle et donc le rapatriement, tout en reconnaissant que toutes les options sont étudiées. On s'achemine donc vers une sorte de cas par cas. L'exécutif écartelé entre deux mauvaises solutions risquait de perdre de vue ces djihadistes qui pourraient regagner la France par leurs propres moyens, ou bien les rapatrier et devoir se confronter à la difficulté pour la justice française de réunir suffisamment de preuves pour juger chacun de ces individus.
Merci Frédéric Seyss. L'opposition vénézuélienne attend des actions plus fortes de la communauté internationale et de la France. Après la première manifestation réussie de la semaine, les partisans de Juan Guaido, qui défient le président Nicolas Maduro, ces partisans pensent déjà à la prochaine manifestation. Ils appellent la population à manifester une nouvelle fois samedi. Thème de la marche qui aura lieu à Caracas, le soutien à l'ultimatum lancé par les Européens pour demander de nouvelles élections. Reportage à Caracas de Gilles Brière et Sacha Coleman.
Elle s'appelle Maria Corina. Elle a été destituée de son poste de députée pour avoir obtenu des fonds provenant des États-Unis. Depuis, elle n'a pas le droit de sortir du Venezuela ou encore de prendre l'avion, mais elle continue de parler et aime nommer les choses. La position française qui demande des élections anticipées peut mieux faire, explique-t-elle.
J'apprécie la position qu'Emmanuel Macron a prise, mais je pense que la situation est tellement critique
et dangereusement alarmante.
That we certainly need.
Nous avons obligatoirement besoin de positions plus fortes.
This is a criminal state.
C'est un état criminel, et comme tous les réseaux criminels, vous devez en tarir les finances.
To financing. I think France
et la France a les moyens de le faire
in that direction.
Et d'aller dans cette direction.
Maria Corina apprécie en revanche la ligne et les sanctions défendues par Donald Trump, le président américain, même si cela peut pénaliser les Vénézuéliens, car le vrai drame pour elle, c'est l'actuel président Nicolas Maduro.
The worst thing that la pire chose qui puisse arriver aux Vénézuéliens, c'est que ce régime reste en place. Il s'agit de mettre suffisamment de pression afin qu'à l'arrivée, cela coûte plus cher à Maduro de rester que de partir.
Et à ceux qui accusent l'opposition de vouloir renverser Maduro, Maria Corina retourne l'accusation en expliquant que c'est le président vénézuélien l'auteur du coup d'État.
Et à l'instant, le Parlement européen appelle l'Union européenne à reconnaître Guaido comme président légitime. Après le journal japonais Nikkei, hier, Carlos Ghosn s'exprime dans la presse française. L'ancien PDG de Renault, qui est toujours incarcéré au nord de Tokyo, clame à nouveau son innocence, cette fois dans les colonnes des Échos. Et c'est vous, Yann Rousseau, correspondant à Tokyo, qui avez rencontré Carlos Ghosn dans ce centre pénitentiaire. Carlos Ghosn qui dénonce à nouveau une trahison et un complot.
Il est sur une ligne qui est la même depuis plusieurs mois, depuis son arrestation. Il dit qu'il est totalement innocent. Et maintenant, ce qu'il dit, c'est que on l'a renversé, on l'a trahi. Il emploie ces mots. Il parle de complot, de trahison, de piège. Il dit que les cadres de Nissan, en fait, se révoltaient contre le programme stratégique qu'il avait. Il entreprenait une grande réunification, une grande intégration des trois marques, Renault, Nissan, Mitsubishi Motors, dans une même société, enfin une société qui aurait été contrôlée par un holding, une maison mère, dans un pays qu'on ne connaît pas. Il aurait gardé l'autonomie des trois groupes, mais ces trois groupes auraient été en quelque sorte fusionnés. Mais il n'utilise pas le mot fusion.
Alors vous êtes le seul journaliste français qui a approché Carlos Ghosn depuis son incarcération. Il est dans quel état d'esprit ?
Écoutez, il était extrêmement combatif. On avait très peu de temps quand vous rencontrez un prisonnier à Kozoge. Vous n'avez que 15 minutes d'entretien. Donc chaque mot compte. Il avait énormément envie de parler. C'était plutôt à moi et à ma collègue de l'AFP qui m'accompagnait de l'interrompre pour essayer de canaliser le flot de paroles et de lui répondre, lui poser des questions. Il est très combatif. Il dit qu'il veut se défendre. Il dit que c'est dur. Il dit « je suis fort, mais je suis fatigué ». Il dit qu'il souffre de la lumière dans sa cellule en permanence, le fait de ne pas avoir de téléphone, de ne pas avoir d'ordinateur, de ne pas avoir pu parler à aucun de ses proches depuis son arrestation en novembre. Il dit que c'est une souffrance, mais qu'il veut se battre, même s'il dit qu'il se trouve face aux hommes du procureur et aux centaines d'hommes de Nissan qui font tout face à lui. Il dit « je suis seul face à une armée, mais je vais me battre ».
Merci à vous, Yann Rousseau. C'est aujourd'hui que l'entité imaginée par l'Union européenne pour commercer avec l'Iran va être officialisée. Elle est destinée à contourner les sanctions américaines contre Téhéran. Quentin Dickinson, vous êtes à Bucarest, en Roumanie, où les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne sont réunis. Et on attend dans la journée une déclaration commune de la France, du Royaume et de l'Allemagne sur ce sujet.
Oui, car les sanctions américaines contre l'Iran se fondent sur une interdiction de créditer les banques et entreprises iraniennes de transferts financiers, qu'ils soient libellés en dollars ou en toute autre devise, au risque pour les contrevenants de se voir interdire toute activité économique aux États-Unis ou en relation avec des sociétés américaines. Les Européens, eux, ne souscrivent pas à ces sanctions, car ils entendent maintenir à flot l'accord sur l'encadrement international du nucléaire iranien. Le mécanisme qu'ils ont mis au point pour contourner cet obstacle, c'est celui d'une gestion centralisée du troc. En clair, si une entreprise européenne fournit des automobiles ou des machines-outils à une entreprise, publique ou privée, en Iran, ce pays s'acquittera de sa dette par la fourniture, pour un montant correspondant, d'un volume de pétrole, raffiné ou non. L'instance centrale, du côté européen, gérera les commandes et agira en chambre de compensation. De ce fait, il n'existera aucun flux financier entre Téhéran et l'UE. Évidemment, chacun ici est conscient qu'à tout moment, Donald Trump peut déclarer illégale cette procédure, ce qui provoquerait immédiatement une confrontation brutale avec l'Union européenne. De son éventuelle réaction directe ou indirecte, l'on pourra déduire le poids véritable qu'il accorde à l'UE et aux trois membres de celle-ci qui ont le plus porté le projet, France, Allemagne, Royaume-Uni.
Merci à vous, Quentin Dickinson. À Bruxelles, le procès de Ménine Mouche se poursuit. Ce Français est jugé pour l'assassinat de quatre personnes au musée juif de Bruxelles. C'était en 2014. Aujourd'hui, le contexte est particulier. Un dossier de cette affaire a été volé chez l'un des avocats de ce procès. Un cambriolage assorti de menaces. Bonjour Angélique Bois.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Bruxelles et pour la première fois depuis le début de ce procès, Mehdine Emouch s'est exprimée longuement.
Je n'ai strictement rien à voir avec ce cambriolage. J'interdis à qui que ce soit de poser des actes d'intimidation. La voix est forte, le regard déterminé. Mehdine Emouch a lu une longue déclaration, en effet l'une des premières depuis qu'il est jugé. Je vis en isolement total, mis à part quelques contacts avec ma famille, dit-il pour se dédouaner. Il estime que ce vol peut lui être défavorable et influencer les jurés. Laissez tranquille les magistrats, les jurés et leurs familles, dit-il en scrutant la salle. Un monologue, de 8 minutes qu'il conclut de façon solennelle avec une prise de position sans aucun doute très préparée avec ses avocats. Je le redis, je ne suis pas l'auteur de la tuerie du musée et je n'ai également rien à voir avec les attentats de Paris et de Bruxelles. Je les condamne. Aucun dieu n'a jamais permis de tuer des innocents. Cet après-midi, Mehdine Emouch sera confronté au regard des deux filles orphelines du couple Riva, tuées d'une balle dans la tête ce jour-là, avec des armes retrouvées dans son sac. Sur ce sujet, l'accusé, malgré ses promesses, n'a toujours livré aucune explication crédible. Ses avocats devraient revenir sur la thèse selon laquelle les Riva n'étaient pas un couple venu fêter ses 18 ans de mariage dans la capitale belge, mais des agents du Mossad, exécutés selon eux pour une raison qui n'aurait rien à voir avec un attentat islamiste.
Merci à vous Angélique Bouin. Les résultats annuels de Boeing viennent de tomber, ils sont excellents. Pour la première fois, l'avionneur européen franchit la barre symbolique des 100 milliards de dollars de commandes. Une performance qui s'explique notamment par la bonne santé du secteur aéronautique dans son ensemble, il est en hausse chaque année de 5%. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Antoine Maret.
Boeing profite pleinement de cette bonne santé et ce dans tous ses secteurs d'activité.
Oui, des résultats historiques avec 806 avions livrés qui s'expliquent par des très bonnes ventes aussi bien dans la branche commerciale que dans le spatial et la défense, auxquels il faut également ajouter les services et la formation qui eux aussi sont en hausse et sont très rémunérateurs et apportent beaucoup d'argent. Si Airbus fait la course en tête dans les avions moyens courriers avec son A320, Boeing est leader mondial sur les ventes de longs courriers avec ses 777 et son Dreamliner, le B787, qui rapporte plus d'argent car ils offrent plus de marge. Du coup, sur le plan financier, tous les feux sont dans le vert pour l'avionneur de Seattle, avec un chiffre d'affaires en hausse de 8% et une marge de 12% en 2018. De très bons résultats qui ne doivent toutefois pas faire oublier les milliers de suppressions de postes réalisées par Boeing ces dernières années, quand les résultats étaient moins bons pour gagner en compétitivité. En attendant, 2019 s'annonce encore meilleur. Boeing table sur un chiffre d'affaires en hausse compris entre 109 et 111 milliards de dollars. Des performances qu'il espère atteindre, notamment grâce à l'augmentation des livraisons, puisque la production, par exemple, du 737 de la famille des longs couloirs, doit passer de 52 à 57 appareils par mois. Enfin, si Airbus et Boeing sont au coude à coude dans l'aviation commerciale, le groupe européen est moins performant et moins présent dans le militaire. Résultat, son chiffre d'affaires est inférieur de 25% par rapport à son rival américain.
Merci à vous, Hakim Kasmi. Les réseaux de la cinquième génération de technologie mobile, la 5G, sont sur les rails. Le gouvernement a détaillé ce matin la feuille de route pour cette 5G par la voix d'Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État en charge des télécoms auprès du ministre de l'Économie et des Finances dans un entretien au Figaro. Première étape, le lancement avec Mounir Majoubi, qui est secrétaire d'État au numérique, et l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, d'un appel à la création de plateformes d'expérimentation de la 5G d'ici fin mars, afin de tester les usages possibles. Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour.
Une fois fixé le cadre politique et le cahier des charges techniques, c'est à l'automne que seront lancées les enchères pour l'attribution des fréquences de la 5G. Alors quels sont les enjeux autour de ces technologies ?
Alors c'est d'abord bien sûr un gros enjeu technique et social. Rappelons d'abord de quoi on parle. Actuellement, la 4G vise surtout les terminaux mobiles. Le grand public s'en sert pour ses communications, le téléchargement de vidéos ou encore l'utilisation d'applications. La 5G, elle, doit offrir plus de rapidité et une énorme capacité afin d'absorber un fort trafic. Du coup, elle voit plus large, elle s'intéressera à tous les objets connectés. On la trouvera dans des infrastructures et des secteurs comme l'énergie, la chirurgie à distance ou la voiture autonome, autant d'usages que permettront d'ailleurs de tester les expérimentations annoncées ce matin. Tout ce potentiel en fait un enjeu économique majeur et la guerre commerciale est déjà lancée entre les opérateurs Orange, Bouygues, Free et SFR, même s'il faudra attendre encore quelques mois pour connaître les conditions d'attribution des fréquences. Sachant tout cela, on comprend bien aussi que les questions de sécurité seront d'autant plus cruciales que les installations concernées seront critiques. Enfin, le dernier aspect sous-tendu par tous les autres est géopolitique et stratégique, car pour déployer ces réseaux, les opérateurs ont besoin des équipementiers. Or, le leader du secteur, c'est le chinois Huawei. Cela pose des questions de souveraineté, mais surtout, Huawei est aujourd'hui soupçonné de permettre à Pékin d'accéder aux communications des pays qui utilisent ses services, autrement dit d'espionnage. Les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande l'ont déjà exclu de leur marché pour la 5G. L'Europe réfléchit à faire de même. En France, le gouvernement, même s'il se défend de viser un équipementier en particulier, veut renforcer le système de contrôle et d'autorisation pour la modernisation des réseaux. C'est le sens d'un amendement à la loi Pacte discuté au Sénat cette semaine.
Merci Catherine Pétillon. Aujourd'hui devait être une étape importante dans l'enquête autour des bébés nés sans main et parfois sans avant-bras dans l'Ain, en Loire-Atlantique et dans le Morbihan. À la demande de la ministre de la Santé, l'enquête a été relancée fin octobre et les agences de santé publique missionnées pour travailler sur de nouvelles pistes devaient présenter aux familles deux comités et les premières hypothèses de travail. Finalement, rien n'est annoncé officiellement ce jeudi. Bonjour Tara Schlegel.
Bonjour.
Santé publique France, l'agence qui doit poursuivre ses investigations sur les causes de ces malformations, eh bien, cette agence n'a pas convoqué la presse aujourd'hui et les parents en colère ont décidé d'écrire à la ministre.
Oui, quatre familles clament leur impatience, leur détermination, leur inquiétude dans cette lettre ouverte, car les parents d'Aliénor et de Charlotte, deux petites filles bretonnes nées à Guidel, sans main, doivent faire partie du comité d'information promis par la ministre. Or, l'une des mamans n'a reçu qu'avant-hier un mail pour proposer une première date de rencontre et pas avant la mi-février. Même retard du côté du comité d'experts qui, pourtant, doit élaborer les nouvelles pistes de travail. Retard qui se double d'un obstacle qu'on n'avait pas vraiment mesuré. En novembre dernier, la ministre avait également mandaté Santé publique France pour élargir le périmètre des investigations qui n'ont pour l'instant débouché sur aucune cause commune. L'agence devait voir si d'autres cas groupés de bébés nés sans main lui avaient échappé sur le territoire. Elle espérait utiliser pour cela un outil informatique, le PMSI, qui s'avère en réalité inopérant. Il faut se souvenir que dans l'Ain, il y a 3 mois, l'agence Santé publique France avait clamé avoir découvert justement 11 nouveaux cas suspects de bébés nés sans main grâce au fameux PMSI. Des cas qui auraient échappé à la vigilance du registre local. Or, après être remonté jusqu'au dossier de naissance, il a fallu 3 enquêtrices à plein temps pour cela, le registre local a découvert qu'aucun des bébés signalés comme nouveaux ne souffrait de cette malformation. Certains avaient des doigts collés, d'autres un défaut d'extension d'un membre, un autre souffrait de nanisme, mais aucune agénésie transverse isolée d'un membre supérieur qui est la malformation dont on cherche la cause. Moralité, le PMSI génère ici 100% d'erreurs. Question, comment va-t-on alors pouvoir élargir le champ d'investigation ? Réponse, mystère.
Merci Tara Schlegel et vous pouvez découvrir en une de notre site franceculture.fr l'enquête complète de vous, Tara, sur ces cas en Bretagne. La disparition de Georges Sarre, l'ancien secrétaire d'État de François Mitterrand, est décédé ce matin à 83 ans. En 1993, il avait quitté le Parti Socialiste pour fonder avec Jean-Pierre Chevènement le mouvement des citoyens dont il avait assumé la présidence de 2001 à 2002. Midi passé de 48 minutes sur France Culture, l'heure de retrouver l'invité politique du jeudi. Avec nous, en direct de l'Assemblée nationale, Lauriane Rossi. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes députée LREM des Hauts-de-Seine, questeur à l'Assemblée nationale. Cela fait 3 jours que la proposition de loi anti-casseurs est discutée à l'Assemblée nationale. Elle prévoit des interdictions administratives de manifester. On a pu voir les débats assez vifs au sein de l'hémicycle. C'est un texte qui a déjà été proposé par la droite au Sénat et voté par la Chambre haute. Est-ce que la majorité est divisée sur cette question ?
Non, la majorité n'est pas divisée, mais vous savez, nous légiférons sur un sujet extrêmement important. Qui consiste d'une part à donner des moyens supplémentaires à nos forces de police qui affrontent, vous le savez, des violences inédites dans les manifestations qui ont pu succéder les différents samedis, et puis ce droit constitutionnel qui est ce droit de manifester. Donc il s'agit effectivement à la fois de maintenir, de renforcer le maintien de l'ordre public et en même temps de préserver évidemment ce droit de manifester. Donc pas de division, mais effectivement des demandes de précision qui ont été formulées aussi bien par les groupes d'opposition que par les parlementaires de La République En Marche. Moi-même, je défendais hier hier soir quelques amendements qui visaient à apporter des précisions à ce texte, notamment sur la définition précise des actes de violents, hein, tels qu'ils sont mentionnés dans ce texte, mais également sur l'interdiction administrative du préfet vis-à-vis d'un manifestant qui pourrait aller jusqu'à un mois. Là aussi, je m'étonnais du délai qui peut paraître disproportionné. Pour autant, le ministre Christophe Castaner a apporté, je crois, beaucoup de garanties, a réécrit une partie de l'article 2, hein, puisque c'est cet article-là qui posait réellement problème. Il a su intégrer des critères plus objectifs en matière d'interdiction administrative de manifester, un recours en urgence également pour les personnes qui seraient susceptibles de faire l'objet de cette interdiction. Donc, nous avons obtenu des garanties et des critères objectifs, je m'en félicite, mais encore une fois, pas de division, mais la nécessité d'encadrer précisément ce texte, car nous parlons là de liberté individuelle.
Rosalie Lafarge du service politique.
C'est une dérive complète, on se croirait revenu sous le régime de Vichy, a lancé hier dans l'hémicycle un député centriste, Charles de Courson. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Je suis assez choquée, je dois le dire, par les propos de mon collègue. Évidemment que nous avons à cœur de renforcer, je l'ai dit, le maintien de l'ordre public et nous voyons bien que les attaques dont ont été victimes nos forces de police ces derniers samedis nécessitent de leur donner les moyens de faire face à cette violence et de confier effectivement, puisque c'est l'objet de ce texte, de confier au préfet les moyens aussi de prévenir ces violences en interdisant l'accès à ces manifestations aux individus les plus violents.
Mais le confier
moi, je souscris
au préfet
complètement
non
à cette démarche. Et ce texte a mon soutien. Maintenant, effectivement, il faut pouvoir encadrer cela de manière précise. Nous légiférons, vous le savez, aussi bien pour aujourd'hui que pour l'avenir. Et les manifestants d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux de demain. Moi-même, dans quelques semaines, dans quelques années, je peux être aussi appelée à manifester. Et évidemment que nous encadrons aujourd'hui des droits et des libertés qui concernent tout le monde. Il faut être extrêmement prudent avec cela, c'est ce que j'ai dit dans l'hémicycle.
Mais est-ce qu'avec cette loi, Lauriane Rossi, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre de l'huile sur un feu qui se consume ?
Non, je vois bien ce que mon collègue tente de dire en faisant allusion au régime de Vichy, comparaison qui me paraît extrêmement choquante. Cette loi n'est pas liberticide et nous y veillons. Et je l'ai fait moi-même avec d'autres collègues de la majorité hier dans l'hémicycle. Les précisions ont été apportées, c'est une très bonne chose. Peut-être que le Sénat ira plus loin, je l'espère. En tout cas, il va y avoir une navette. Ce texte va s'enrichir encore. Mais je crois que nous avons obtenu bon nombre de garanties, de critères objectifs. Et puis ce recours en urgence pour tout citoyen qui se verrait interdire l'accès à une manifestation, c'est crucial.
On parle beaucoup ces dernières semaines des LBD, les lanceurs de balles de défense. Les insoumis qui appellent le gouvernement à la désescalade appellent aussi à en finir avec ces LBD qui peuvent provoquer de graves blessures. Vous, vous en dites quoi ?
Je dis tout d'abord que sur l'événement récent qui s'est produit concernant l'utilisation d'un LBD et la personne qui a été blessée, l'enquête est en cours et je laisse l'enquête se dérouler. Moi, je souhaite que les forces de police, évidemment, aient les moyens de réagir, de faire face à ces violences inédites et évidemment, il faut les accompagner. Nous avons un droit qui est très clair et nos forces de police, évidemment, se tiennent au principe de réponse proportionnée. Concernant les LBD, laissons l'enquête faire son œuvre et le ministère de l'Intérieur avancer sur la question.
Mais est-ce que c'est proportionné de perdre un œil quand on va manifester ?
Mais là n'est pas la question. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nos policiers ont aujourd'hui les moyens suffisants d'agir face à des violences, de telles violences ? Je ne le crois pas. Donc il faut pouvoir aider nos forces de police à maintenir l'ordre public, évidemment, je l'ai dit, en préservant le droit de manifester et bien sûr en respectant ce principe fondamental de réponse proportionnée à la violence, c'est évident.
Autre thème qui nous occupe ces dernières semaines, Lauriane Rossi, le grand débat national, est-ce que vous y croyez encore, vous ?
J'y crois énormément et je vois chaque jour des citoyens se connecter au site du Grand Débat, organiser des débats dans chaque ville. Donc nous voyons bien que cette soif d'expression, cette soif de démocratie locale est là et que ce Grand Débat, nos concitoyens se l'approprient. C'est une excellente nouvelle. Il nous faut pouvoir faire vivre cette démocratie participative, ces grands débats partout. Je vois également dans ma circonscription des Hauts-de-Seine, à Bagneux, à la Coffe-Montrouge, qu'il y a cette envie aussi de débattre. 500 000 contributions ont été déposées sur le site du Grand Débat. débat. Nous en sommes à près de 3000 réunions organisées sur tout le territoire. Ça ne fait que grandir et c'est une excellente nouvelle.
500 000 contributions, dont 200 000, nous dit-on, qui ne sont pas des réponses aux questions qui sont posées. Est-ce que ça ne veut pas dire que les citoyens ont envie de parler d'autre chose?
Oui, c'est vrai. Nos concitoyens ne souhaitent pas forcément s'en tenir aux quatre thématiques qui ont été posées dans le cadre du grand débat. Mais c'est tant mieux, nous l'avons dit. Et je le redis, il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de question tabou. Et toutes les contributions sont les bienvenues, de la même manière que dans le cadre des débats qui se tiennent dans chaque ville, chaque quartier. Tous les sujets peuvent être posés sur la table, évidemment.
Oui, mais ils deviendront quoi? Parce qu'encore hier soir, le Premier ministre rappelait que les réponses seront prises en compte dans les quatre thèmes prédéfinis par le Président de la République. Le reste, c'est quoi? C'est parler, on vous écoute, mais on n'en fera rien?
Non, au contraire, moi je reçois beaucoup de contributions, beaucoup de questions aussi émergent des réunions et je m'en nourrirai d'une part à titre parlementaire dans le cadre de mon travail quotidien à l'Assemblée nationale, mais je vois aussi que beaucoup de sujets concernent finalement des sujets très locaux, des préoccupations du quotidien qui concernent davantage les collectivités locales, les mairies, les départements, les régions que finalement la loi. Donc là aussi, il faut pouvoir travailler en partenariat avec les élus locaux sur ces sujets-là et puis nous aurons à l'issue des débats qui se tiennent dans chaque ville, des réunions à l'échelon régional avec des citoyens tirés au sort qui auront eux aussi à débattre des contributions qui auront été déposées. Donc bien sûr, elles ne restent pas lettre morte, bien au contraire, elles continuent leur chemin aussi bien dans le cadre du grand débat qu'au niveau parlementaire.
Et Lauriane Rossi, vous êtes députée, mais vous êtes aussi questeur à l'Assemblée, sorte de superintendant si on peut dire. Il y a quelques jours, un sondage IFOP a relevé que pour 77% des Français, on ne se donne pas réellement et efficacement les moyens de lutter contre la corruption des élus. Est-ce que les députés sont aujourd'hui irréprochable?
Je crois que beaucoup de mesures ont été prises ces dernières années et notamment depuis notre arrivée aussi aux responsabilités. Concernant les parlementaires, nous sommes allés, je dirais, au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun privilège. Je le dis en tant que questeur de cette Assemblée, donc j'ai en charge effectivement les moyens financiers et notamment les frais de mandat. Nous avons tout aligné, le régime de retraite, le régime d'assurance chômage des députés sur le droit commun. Nous avons supprimé l'IRFM, cette indemnité de frais de mandat, pour mettre en place une avance qui est désormais contrôlée à l'euro près par la déontologue
et nous avons adapté à partir d'aujourd'hui. Il était temps.
Mais bien sûr qu'il était temps et c'est une très bonne chose. Ça fait partie de la loi confiance que nous avons votée. C'était la première loi que nous avons votée dans l'hémicycle et c'est tout un symbole. Nous avons supprimé, interdit les emplois familiaux. Et je pourrais citer comme cela beaucoup de mesures qui vont vers une plus grande exemplarité. Ça n'est peut-être pas suffisant, donc il faut continuer à être vigilant. Je crois aujourd'hui que du côté des parlementaires, nous sommes allés jusqu'au bout. Il faut continuer avec le train de vie de l'État, la haute fonction publique, les autorités administratives indépendantes et les collectivités qui ont encore des efforts à faire en matière de transparence.
Merci beaucoup à vous, Lauriane Rossi. Merci également à Rosalie Lafarge ainsi que Georges Thau à la technique. Aujourd'hui, il va neiger en Normandie, sur le nord-est et le Puy-de-Dôme, de la pluie sur le reste de la moitié ouest du pays et la Corse, beau temps ailleurs. Température fraîche, 1 à Amiens, 3 à Paris, 9 à Brest, 13 à Biarritz. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Prochain journal à 18h avec Aurélie Kiefer.